France Info.
Bonjour Michel Sardou.
Bonjour.
Elle court, la maladie d'amour.
Chanteur, comédien, vous êtes un enfant de la balle, fils unique des comédiens Fernand Sardou et de Jackie Sardou, descendant d'une tradition familiale dans le monde du spectacle depuis le début du 19e siècle. Vous êtes aussi auteur de nombreux succès. Vous comptez parmi les chanteurs français les plus populaires, plus de 50 ans de carrière, 26 albums studio, plus de 350 chansons, 5 victoires de la musique, 100 millions de disques. Grosso modo, parce que comme vous dites, c'est jamais très très rond.
Non, c'est difficile de dire 100. On n'a jamais un chiffre rond dans les ventes comme ça.
En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous êtes l'un des plus gros vendeurs français. Et pourtant, dans votre autobiographie, Je ne suis pas mort, je dors, chez XO Éditions. Vous dites, je n'ai jamais eu l'envie d'avoir envie d'être chanteur.
C'est vrai.
Votre seule envie, c'était d'être un artiste. Vous rêviez à quoi alors, enfant, Michel Sardou?
C'est-à-dire que je suis un personnage assez particulier, moi. C'est vrai que je n'ai jamais eu envie d'être... jamais même pensé qu'un jour je serais chanteur. J'avais une voix, mon Dieu, tout à fait nulle. Je me suis trouvé embringué avec Michel Fugain dans une audition publique chez Barclay. On écrivait des chansons avec Fugain, on était un petit groupe de poètes désespérés. Oui. On écrivait des chansons. Donc on voulait voir comment étaient reçues nos chansons. Mais on n'était pas parti pour une carrière de chanteur. Et de tous ceux qui passaient l'audition, celui qui a été engagé, c'est moi. Pourquoi? Franchement, je ne peux pas vous dire. Et j'ai eu un directeur artistique que j'ai beaucoup aimé, qu'on appelait Naps Lamarche, qui m'a pris chez Barclay et qui a tenu 3-4 disques, qui croyait en moi, qui croyait en ce que j'écrivais, etc. On n'en vendait pas du tout. Ma mère en achetait 12. Et finalement, un jour, avec une chanson que je n'ai jamais aimée vraiment, d'ailleurs, c'est parti. À partir de là, je dis, puisque c'est parti, allons-y. Mais j'étais pas désespéré de ne pas vendre de disques avant. Parce que pour moi, c'était pas mon métier. Donc ça s'arrête, on s'en fout. C'est pas grave, je vais faire autre chose. Et puis d'un seul coup, c'est parti. Alors là, quand c'est parti, évidemment, le champ de vision s'élargit, c'est différent, c'est plus passionnant, etc. C'est 50 ans après, le même, qui raconte la même histoire depuis 50 ans.
La première fois que vous avez dit, vous avez annoncé que vous vouliez devenir artiste, c'était à votre père.
Oui.
Vous avez enfin réussi à trouver les mots, aller le voir pour lui dire. Il vous a ouvert la porte.
Il a été parfait, il m'a foutu à la porte et il m'a dit, il faut que tu en vives. Tu reviens dans la maison que si t'es malade, c'est tout. Et je me suis retrouvé sur le trottoir. Et je trouve que c'est la plus belle leçon qu'on puisse donner. Parce que c'est facile de dire je vais être artiste. Évidemment, quand on est jeune, comme j'étais à l'époque, quand je disais artiste, je pensais vedette. Je pensais pas artiste. Le vrai métier d'artiste, qui est un métier épouvantable. Et comme disait Jouvet, d'ailleurs, un type qui lui disait « je veux faire du théâtre », il lui disait « tu sais, le théâtre, c'est pas ce qu'on croit ». Et donc, je me suis retrouvé à la rue, il fallait que je bouffe, il fallait que je vive, il fallait que j'en vive. C'est bon, mon père avait raison, il dit « faut que t'en vives ». Alors, j'ai fait plein de petits métiers, j'ai fait du cabaret, j'ai fait des choses que je faisais n'importe quoi. Et puis, petit à petit, je suis rentré dans un univers de chansons, de créations, etc. Et cette fameuse audition où là, je suis rentré dans une maison de disques, voilà.
Votre premier travail d'artiste, finalement, vous le dites. D'ailleurs, c'est vraiment, ça a débuté dans les restaurants
dans lesquels vous travaillez. Oui, j'ai débuté comme serveur de restaurant au Canard qui fume sur les bords de la Marne.
Avec un papa qui vous a beaucoup apporté, j'ai l'impression, Michel Sardou. En tout cas, c'est comme ça que vous le décrivez dans cette
image. Il m'a apporté, mais à contre-temps. C'est-à-dire que mon père ne parlait peu. En plus, il pensait, je le pense aussi, qu'on ne donne pas de conseils dans ce métier-là. Parce que tout le monde a une personnalité, tout le monde, quelquefois, c'est surprenant. Vous avez quelqu'un qui apparaît, vous dites, il va pas faire ce métier-là, il a pas le physique, il a pas la voix, et puis, il fait une carrière formidable. Donc, on peut pas donner de conseils. C'est une fois qu'il est parti, que j'ai vraiment parlé avec lui, que j'ai compris ce qu'il voulait me dire. Et moi, dans ma tête, au début tout du moins, mon rêve, c'était de faire la carrière de mon père. Certes, il était populaire, il était aimé, mais c'était pas une grande vedette. Mais il a vécu toute sa vie de son métier. Et je vous assure que ça, rien que ça, vivre de ce métier-là, que ce soit tout le spectacle, hein, les comédiens, les chanteurs, ce que vous voulez, c'est pas donné à tout le monde. Il y a très peu de gens qui arrivent à en vivre, déjà. Ceux qui en vivent très bien, on les compte sur les doigts de la main, mais tous les autres. C'est un métier très, très ingrat, très injuste, très pénible. C'est plein de remises en cause, de soucis. C'est vraiment pas le métier le plus facile du monde. Moi, j'ai rien dit à mon fils quand il a dit « je vais être artiste », mais je dis, il se rend pas bien compte de la galère où il va.
Votre mère, ça a été votre plus grand pilier, j'ai l'impression, Michel Sardou. Votre plus grand guide aussi, un peu?
Non, je dirais pas ça. Elle a toujours été d'une franchise épouvantable. Je ne pouvais d'abord rien lui cacher, elle me connaissait par cœur. Donc, vous oubliez le mensonge, là, c'était même pas la peine d'y penser. Elle savait que j'étais en train de la planter ou que j'étais en train de... Et elle a toujours regardé ce métier-là avec justement ce recul qu'elle avait, connaissant les aléas de ce métier, avec un regard tout à fait froid. J'ai un souvenir d'elle, mais précis. J'étais sur scène à l'Olympia, je finissais mon tour de chant et à la fin, la salle s'est levée et m'a applaudi. Et je voyais ma mère, toute seule, debout, petite, au milieu des gens qui regardaient les gens comme ça, avec un air de dire, est-ce qu'ils sont bien sincères, ceux-là?
J'ai l'impression qu'on vous découvre davantage à travers justement ces écrits, parce que finalement, d'être dans l'ombre, ça ne vous a jamais gêné.
Non.
Mais d'être dans la lumière aussi, ça vous a gêné, par contre.
Ah, plus, parce que je n'aime pas me montrer. Enfin, je n'aimais pas, maintenant ça y est.
Vous dites que vous n'avez jamais aimé votre image.
Oui, ma gueule. Comme disait l'autre, qu'est-ce qu'elle a ta gueule. Je l'aimais pas, je me trouvais, bon, normal, mais je veux dire, pour moi, un artiste qui se montrait sur scène, ça devait être quelqu'un de brillant. J'ai toujours fait l'inverse de ce que j'aimais, de toute façon. Pour moi, c'est une plaie. Alors, je jouais un personnage qui rentre sur scène. Voilà.
C'est dingue, d'ailleurs, parce qu'on n'imagine pas ça du tout de vous.
Oui, c'est vrai. On croit que je suis très fonceur, très fort, mais en fait, non, je suis très sensible, très réservé, donc je fais l'inverse de ce que je suis.
Très solide aussi, effectivement, avec cette force et puis cette voix. Quand vous dites que la chanson est arrivée par hasard dans votre vie, on a quand même l'impression que vous étiez prédestiné à ça. Et la prédestination, c'est dans ce livre aussi.
C'est-à-dire que quand j'ai rencontré Revault et son associé Régis Tallard, qui avait une maison d'édition, la première chose qu'ils m'ont dit, c'est que j'avais pas la voix placée. Mais peut-être que Revault avait vu que j'avais de la voix, mais qu'elle n'était pas placée. Il suffit qu'elle soit placée pour que d'un seul coup, ça prenne de l'ampleur. Et j'ai eu un prof extraordinaire, Annette Charlot, je regretterai toujours, qui m'a suivi jusqu'à sa mort.
Vous n'avez jamais fait payer un seul cours?
Jamais un seul cours. Parce qu'elle avait trouvé que j'avais une voix intéressante. Ce qui a été très dur, elle était bretonne, attention, n'était pas facile. Et il fallait la porter sur scène à la fin, parce que je faisais évacuer tout le monde avant le spectacle, tous les gens de l'équipe. Elle montait sur scène, on la portait sur scène, et elle me faisait faire mes exercices avant que le spectacle commence. Et elle avait une habitude, c'est qu'elle se mettait dans les coulisses. Au bout de certaines chansons, je me retournais vers elle pour voir ce qu'elle en pensait. Alors elle levait le pouce, si c'était bien, ou elle baissait le pouce. Ça m'en est fou, ça. Quand elle baissait le pouce, ça m'en est fou.
Le point de départ, c'est le titre Les Bals Populaires. Et comme c'est sans concession, c'est écrit, vous dites clairement que vous n'avez jamais aimé cette chanson.
Jamais, jamais. En l'enregistrant, j'ai trouvé ridicule. Si on n'en est plus à l'accordéon, machin. Enfin, j'aimais pas. C'est très instinctif, les chansons. Et pourtant, j'en avais fait les paroles. En partie, je crois que c'est en co-auteur. Mais j'aimais pas ça du tout. Ce qu'avait fait Revault, la musique de Revault, bon, ça va bien 5 minutes, mais j'ai dit non, c'est pas ce que j'aime. Moi, j'étais dans Johnny Cash, dans tout ça, donc ça avait très peu de rapport avec Walk the Line. Et c'est celle-là qui démarre. Qu'est-ce que j'y fasse? Je la prends. Tant pis. Enfin, elle me prend. Et ça a démarré avec ça. Et pendant quelques temps, il a fallu que je me tienne à ce genre de chanson. Il y a eu J'habite en France, qui est dans le même genre. Et j'aimais pas du tout ça. J'aimais pas ce genre, je sais pas comment appeler ça d'ailleurs, je suis emmerdé pour la franchouillarde, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Ça me plaisait pas beaucoup. Enfin bon, ça marchait, j'ai bien fallu que je gagne ma vie aussi. Quoi.
C'est Cocatrix, hein, d'ailleurs, qui finalement vous met le pied à l'étrier en quelque sorte.
Cocatrix était formidable.
À travers ce récital qui vous.
Oui, c'est un récital incroyable. Ça. Je raconte comment c'est venu, enfin je vais pas le refaire.
Les 10 chansons et puis, ouais. Effectivement d'être en première.
10 chansons dans l'œil, je dis, mais j'ai pas le répertoire pour faire un récital du commandant. Tu fais les 10 premières chansons de 1 à 10 et la deuxième partie de 10 à 1. C'est rien de plus facile, dit-il.
Vous avez travaillé avec les plus grands, Michel Sardou, Didier Barbelivien, Pierre Delanoë, Maurice Vidalin, Claude Lemel, Jean-Loup Dabadie, Vin Buggy aussi.
Tu as volé mon enfant. Verser le sang de mon sang. Aucun dieu ne m'apaisera. J'aurai ta peau. Tu périras.
Votre règle était que, quel que soit le sujet, vous deviez aller jusqu'au bout, avec une vraie sincérité.
Oui.
Même s'il devait en découler des mots durs, voire provocateurs, ça vous a effectivement porté beaucoup de préjudice, mais vous n'avez jamais freiné votre façon de travailler, votre façon d'être.
Non, maintenant, ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien, mais je pensais que, sur scène, c'est valable pour la chanson comme pour la comédie. Si vous n'êtes pas sincère, si vous ne prenez pas plaisir à le faire, faites un autre métier, faites autre chose. faut aller au bout de ses idées. Tant pis, c'est des fois, effectivement, ça implique des mots un peu durs ou pas. Ou des chansons d'amour aussi, il n'y a pas que des chansons dures de mon répertoire. Loin de là, même. Mais être sincère avec ce qu'on écrit, ça joue des tours. Ça joue des tours. Parce qu'évidemment, comme j'avais comme principe de faire « je », d'écrire à la première personne, les gens se disaient « mais ce qu'il dit, il le pense, ça, c'est lui ».
C'est lequel la chanson « Je suis pour » ?
En fait, je m'y suis pris comme un manche. Parce que je n'étais pas, la chanson n'avait rien à voir avec la polémique entre abolitionniste et favorable à la peine de mort. Pas du tout. J'y ai même pas pensé en écrivant la chanson. J'avais imaginé un rôle. Je me disais, si j'avais été le père de ce petit garçon, et si j'avais mis la main sur le mec avant la police, c'est moi qu'on aurait mis en prison. Il n'aurait jamais eu de procès, le mec. Mais, au lieu de dire ça, les quatre premiers vers m'ont planté. Tu n'auras pas besoin d'avocat, j'aurai ta peau, tu périras, c'est mort. Je m'y étais mal pris. Donc, c'est pas les gens qui sont mauvais ou qui m'ont critiqué méchamment, c'est parce que tout simplement je me suis pris comme un manche. J'ai fait une chanson qui n'était pas celle que j'avais dans la tête. Ça arrive souvent. Regardez Les Ricains. J'écris Les Ricains, c'est au tout début de ma carrière ça a commencé. Quand j'ai écrit Les Ricains, c'était simplement un coup de chapeau à ces hommes qui sont venus mourir sur Omaha pour nous délivrer. Quand j'ai relu la chanson, je dis mais qu'est-ce qu'il y a de mal dans cette chanson ? De Gaulle m'interdit la chanson. Enfin, le gouvernement de Gaulle met la chanson à l'index et les gens qui n'étaient pas gaullistes me traitent de facho. Où est-ce que la logique là-dedans ? Vous lisez la chanson, franchement. Alors, en m'interdisant, ça m'a fait quand même faire un petit succès parce que les gens se sont dit, comme c'est interdit, il doit dire des trucs épouvantables. Et en fait, je dis quoi ? Je dis qu'un certain matin, il y a des mecs qui ont vu le pont se baisser et qui ont traversé la plage.
Un gars venu de Géorgie qui se foutait pas mal de toi est venu mourir en Normandie. Un matin où tu n'y étais pas.
Quelle est la chanson qui, finalement, dans tout ça, parce que à travers cet ouvrage, vous en abordez quelques-unes, mais il y en a tellement, dont vous êtes le plus fier.
Et je vous ai étonné encore plus. Moi. C'est une que j'ai pas écrite, que j'ai jamais enregistrée, que j'ai jamais chantée, que j'ai chantée sur scène. C'est L'Aigle Noir de Barbara. J'ai fait une version personnelle de L'Aigle Noir.
Lors d'un déjeuner, alors que vous n'aviez que 20 ans, vous étiez en tête-à-tête avec Jacques Brel. Il vous a dit une phrase, il vous a dit un jour, au bout de 300 chansons ou plus, tu t'apercevras que tu écris les mêmes sujets que ceux d'aujourd'hui, ce jour-là, arrête.
Oui.
Et vous dites qu'à un moment donné, cet avertissement, parce qu'effectivement, votre père vous a toujours appris qu'on ne donnait pas de conseils, mais des avertissements, donc vous avez pris ça comme un avertissement. Là, ça a commencé à résonner, c'est devenu une évidence qu'il fallait que vous
arrêtiez. Oui, ça m'a sauté aux yeux, je dis bon là, ça va. Je refaisais ce que je faisais 20 ans, 30 ans plus tôt. Non.
Ça vous a pas fendu le cœur de prendre cette décision ?
Non, parce que
ça a vendu le cœur à tous vos fans. Hein.
Parce que oui, évidemment, ça a déçu le public parce que je me suis pas expliqué. Et puis même si j'avais expliqué ça, je suis pas sûr qu'ils auraient bien saisi le problème. En fait, pour moi, pour faire plaisir, il faut se faire plaisir d'abord. Là, ça devenait, j'étais en dehors du coup. C'est-à-dire, j'étais de moins en moins impliqué dans mes chansons. J'écrivais moins. Alors si, j'étais là, mais j'étais pas comme avant. Je dis, ouh, ça sent mauvais, ça. Ça veut dire que je vais bosser avec des souliers de plomb, quoi. J'ai préféré arrêter et me tourner vers une autre aventure, celle que j'adore, le théâtre.
Vous abordez malgré tout les femmes, hein, quand même, hein, Michel
les
Sardou,
femmes.
Notamment votre femme, Anne-Marie,
oui.
Que vous qualifiez de seule certitude.
Oui.
Ça s'appelle une vraie belle déclaration d'amour.
Oui.
À celle qui
vrai.
Partage votre vie.
Et c'est vrai, parce que elle partage ma vie, mais plus que ça encore. Être la femme d'un artiste, c'est pas un cadeau, hein, à tout point de vue. Déjà, en général, on a un caractère de cochon, on a peur, on a des doutes, on se demande si ça va durer, on se demande si le choix est bon, la future pièce que je vais jouer, est-ce que j'ai raison de choisir ça ? Ah merde, je suis peut-être un peu vieux, je suis peut-être trop jeune, je suis peut-être bon. Et tout ça fait qu'on a une vie perpétuelle dans le théâtre. On passe sa journée à se poser des questions qu'on va appliquer le soir. Et elle a eu la chance d'être la fille d'un grand acteur, François Perrier. Donc ces angoisses-là, il les avait aussi. Donc elle a grandi. Elle sait très bien ce qu'on ressent, comment on est, pourquoi on fait ça, pourquoi on dit ça, pourquoi on fait la gueule, pourquoi d'un seul coup on est agressif sur quelque chose alors que rien. Elle sait faire ça, elle sait gérer ma vie aussi, faire des choix pour moi. Moi, je choisis mal. Et voilà. Et c'est une femme magnifique. Voilà.
Vous dites que vous vous perdez dans les règlements incompréhensibles et trop nombreux d'une bureaucratie pléthorique. Vous avez d'ailleurs l'image un peu d'un ours. Vous vous ressentez comme ça ?
Exactement, j'ai un caractère d'ours. Je suis solitaire, mais ça, je l'ai toujours été. C'est pas pour me donner un genre, j'ai toujours été comme ça.
Impossible de ne pas évoquer le théâtre, ça vous colle à la peau. Et finalement, ce qui est très drôle, ce qu'on découvre dans cet ouvrage vraiment, c'est que c'était vraiment votre première intention.
Oui, oui.
Pas celle de chanter, mais celle de monter sur scène.
C'était de monter sur scène et de jouer des personnages. J'ai pris des cours de préparation pour le conservatoire.
Ça a commencé d'abord avec Fugain aussi, toujours avec
Fugain voulait. Est-ce que ce qu'on ne sait pas avec Fugain, c'est que j'en dis un mot, mais lui, on parlera beaucoup mieux que moi, mais quand il a créé son Big Bazar, qui a eu un grand, grand succès, ça a très bien marché le Big Bazar. Mais ce que les gens ne savent souvent pas, c'est qu'au départ, c'était une école. Une école où fallait apprendre à chanter, à danser et à jouer la comédie. Ils voulaient l'école totale comme il y a en Amérique. En Amérique, tous les acteurs savent danser, savent chanter, savent jouer. Ça fait partie de la formation d'un artiste. Et donc, il m'a mis en relation, lui-même était d'ailleurs dans un cours aussi, il m'a mis en relation avec des profs. Et j'ai été prendre mes cours chez Raymond Girard pour la diction et le classique. Il avait une façon de nous enseigner qui était assez drôle. On avait toujours une fois par semaine une audition à faire, donc un texte à dire. Et Nicole Calfan devait dire la tirade de Junie dans Britannicus. Et moi, je lançais la tirade. Elle part. Et je me rends compte que Girard, au fond de la salle avec ses jumelles, il regardait pas du tout Nicole. Il regardait moi pour savoir si j'écoutais. Parce qu'il dit, au théâtre, le secret, c'est l'écoute. Si tu sais pas écouter ce que dit ton partenaire, tu seras jamais un acteur. J'y pense toujours quand je joue. Parce que dans la vie, on s'écoute et on se regarde. On lâche pas d'un seul coup après une réponse. Et c'est très marrant, ça.
C'est une énorme passion, ça. C'est une grosse partie de vous, le théâtre.
C'est marrant parce que c'est exactement ce que j'aime faire. Il y a un acteur très célèbre anglais, Keane. Quand on lui demande, quelqu'un lui disait, je veux faire du théâtre. Tu veux faire du théâtre? C'est très facile. Pendant 2 heures, il faut faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Mais ce qui me plaît dans le théâtre, justement, et c'est très bizarre. Je ressens ça, je ne sais pas, j'en ai jamais parlé avec d'autres acteurs. Mais au bout d'un moment, vous vous rendez compte que ce personnage qui n'est pas vous du tout, finalement, le devient. Pendant la période de la pièce, évidemment, le rideau tombe, vous redevenez l'homme que vous êtes.
C'est un peu une carapace, hein, quand même. Hein.
Oui, mais ça, c'est bien.
C'est là où on se rend compte à quel point ça vous plaît, finalement, oui. D'avoir cette carapace et de pouvoir, pas vous cacher, mais...
Voilà. Il jouait des rôles aussi où on fait rire. C'est important, les gens me disent, oui, il fait la gueule, tout ça. Or, moi, il n'y a qu'une chose qui me passionne, c'est de les entendre rire. Ça, c'est formidable.
Vous avez rempli les plus grandes salles, les plus grands stades en chansons, mais vous dites que vous avez toujours eu plaisir à jouer dans des toutes petites salles, parce que finalement, sur scène, vous avez toujours été seul. Je trouve que cette phrase, elle est extrêmement forte. Elle résume beaucoup de choses.
On est seul, oui. Alors, dans la chanson, on est encore plus seul, parce que nos musiciens sont des partenaires, mais qui sont passifs. Ils sont derrière vous, ils jouent pas avec vous. Au théâtre, vos partenaires jouent avec vous. Ils vous donnent la force, le ton. Mais au musical, on est seul, on est devant. On a un pied de micro, de temps en temps, on prend le micro, on va à gauche, on va à droite, on revient. Mais bon, on est tout seul. Et dans les petites salles, au théâtre, on les entend. Dans les grandes salles, j'ai fait 91 fois ou 92 fois Bercy, je ne sais pas. Je n'entendais personne. Je ne voyais personne. J'étais dans un halo, de lumière énorme, formidable, que Régler ou Vérolis, qui était formidable. Une fois que j'avais fini mon truc, je ne sais pas, je voyais pas comme je vous vois, là. Ça vous intéresse, ça vous intéresse pas. Tandis qu'au théâtre, je vois le type qui s'endort. Je vois la dame qui pense à faire qu'une seule chose, faire une photo. Ça, je le vois. Et je m'arrange pour qu'elle comprenne que je l'ai vu, d'ailleurs. Quel rangeur d'appareil vite fait. Mais bien qu'on ne s'adresse pas à eux directement au théâtre, on passe par un partenaire, il y a quelque chose de plus humain, c'est quelque chose de vivant.
Est-ce que l'enfant que vous étiez est fier de l'homme que vous êtes devenu, Michel Sardou? Parce que cet enfant, il a grandi dans les coulisses du théâtre où évoluait son père sur scène. Il a accompagné sa mère aussi pendant très longtemps. Est-ce que l'enfant que vous étiez est donc fier de l'homme que vous êtes devenu?
Fier, je ne sais pas, content, oui. Content de ce que j'ai fait, oui. Et de ce que je vais faire. Parce que ça ne marche que sur l'avenir. Le passé, pour moi, c'est fini.
Merci beaucoup, Michel Sardou.
C'est moi qui vous remercie.
Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer, le Connemara. Terre, les lacs, les rivières. c'est le décor du Connemara. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Maureen a plongé nue dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit, je suis catholique, Maureen aussi, l'église en granit de Limerick. Maureen a dit oui. Deux types, Harry, Barry Connolly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connolly, les O'Connolly, les Flaherty, du Ring of Kerry et de quoi boire trois jours et deux nuits. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix du silence. Là-bas, au Connemara, on dit que la vie, c'est une folie, et que la folie, ça se danse. Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants. Un peu d'enfer, le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières. C'est le décor du Connemara. On y vit encore au temps des Gaëls et de Cromwell, au rythme des pluies et du soleil, au pas des chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager certains soirs d'été et replonger pour l'éternité. On y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un coup de meilleur. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix autour de la croix. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix de la guerre. Là-bas, au Connemara, on n'accepte pas la paix des Gallois, ni celle des rois d'Angleterre.